France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En octobre 2002, 20 ans après la mort de Pierre Mendès France, France Culture rediffusait les fameuses causeries radiophoniques qu'il adressa aux Français à un rythme à peu près hebdomadaire durant les 7 mois et quelques jours où il gouverna le pays. Ces causeries, commentées par François Stasse, avaient été réunies en une série de 5 numéros. Nous en écoutons maintenant le dernier. Il comprenait les ultimes rendez-vous que le président du Conseil, Pierre Mendès France, donna à ses concitoyens sur les ondes de la RTF. C'était entre la mi-décembre 1954 et le 29 janvier 1955, quelques jours avant la chute de son gouvernement. Mémorable, Pierre Mendès France, cinquième et dernière partie, diffusée la première fois le 18 octobre 2002 sur France Culture.
Bonjour, nous arrivons ce matin au terme de l'expérience gouvernementale mendésiste. Pierre Mendès France aurait certainement voulu poursuivre son action bien au-delà des 7 mois et 17 jours que le Parlement lui a chichement accordés. Mais sous la 4e République d'alors, c'était la durée de vie moyenne d'un gouvernement. Nous avons terminé l'émission d'hier en écoutant Mendès France annoncer qu'après tant de problèmes affrontés sur la scène internationale, son ambition était de s'occuper enfin des questions du développement économique et social de la France. Mais le calendrier politique ne va pas lui en laisser le temps. Dès le 18 décembre 1954, une tentative de l'Union soviétique de faire échouer la ratification des accords de Paris, qui prévoit un réarmement contrôlé de l'Allemagne, l'oblige à intervenir à nouveau sur ce sujet. On écoute Pierre Mendès France.
La note par laquelle l'URSS nous annonce son intention de rompre le pacte franco-soviétique est évidemment destiné à impressionner la France à la veille du débat de l'Assemblée nationale. L'Angleterre, elle aussi, a un pacte avec l'Union soviétique. Depuis plusieurs semaines, elle a ratifié les accords de Paris. Et le gouvernement de Moscou, qui n'avait pas cru utile de lui adresser une note semblable à celle qu'il vient de nous envoyer, s'est abstenu jusqu'à présent de dénoncer le pacte anglo-russe. Alors, pourquoi cette décision spéciale à la France? Si l'on a à Moscou jugé plus commode d'agir sur l'Assemblée nationale française plutôt que sur le Parlement britannique, c'est parce qu'on sait que notre pays est plus divisé et son opinion plus vulnérable, comme il est regrettable que nos désaccords, nos querelles internes, complaisamment étalées sur la place publique, desservent ainsi notre cause, affaiblissent notre position et encouragent les pressions de l'extérieur. Cependant, la manœuvre quelque peu brutale à laquelle vient de se livrer le gouvernement soviétique ne saurait réussir. Pendant les 5 dernières années, la France a cherché, en retardant l'échéance, à ménager toutes les possibilités d'un règlement. Elle l'a même fait au prix de difficultés avec ses alliés. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas cessé d'attendre de l'Union soviétique un geste qui aurait vraiment permis que les questions pendantes fussent réglées d'un commun accord. Moi qui suis, comme vous tous, profondément désireux de progresser vers la paix et préoccupé de rechercher la détente, je suis obligé de le reconnaître. Ce geste n'a pas été fait, ni à propos de la réunification de l'Allemagne, ni à propos de l'Autriche, ni d'aucun autre problème. Les Russes n'ont pas jugé que la question du réarmement de l'Allemagne valait de leur part une concession réelle. Finalement, la France a bien dû l'admettre. Un certain réarmement de l'Allemagne, voulu par nos alliés unanimes, était devenu inéluctable et allait se faire avec ou sans notre consentement. Dès lors, notre objectif a été avant tout de poser des limites au réarmement allemand et d'empêcher qu'il pût prendre un caractère dangereux ou agressif. Les accords de Paris ont prévu la limitation, le contrôle et la publicité des armements. Ils ont prévu des interdictions de certaines fabrications militaires en Allemagne. Une organisation fondée sur de telles bases présente un caractère défensif évident. Si du côté de l'Est, on constituait un groupement obéissant aux mêmes principes et suivant les mêmes règles, non seulement nous n'aurions pas à nous en inquiéter, mais nous verrions apparaître à l'horizon la possibilité d'un accord plus général qui instituerait enfin dans l'Europe tout entière un système de garantie mutuelle et qui pourrait conduire à la réduction générale des armements. Le dernier geste de l'Union soviétique est spectaculaire, mais je me refuse absolument à renoncer à nos espérances, donc à nos efforts. La proposition que j'ai faite d'une conférence à quatre en mai prochain demeure valable, aujourd'hui comme hier. Et je crois fermement que cette conférence, si elle est préparée dès maintenant par la voie diplomatique, peut se réunir à la date prévue et faire œuvre utile pour la paix, qui demeure l'objet des vœux de toutes les nations et de tous les peuples.
La prochaine causerie de Pierre Mendès France est diffusée le 24 décembre 1954. Il saisit cette occasion pour retrouver le ton très personnel qu'il affectionne, dans la recherche du contact direct entre chaque citoyen et le plus haut responsable politique du pays.
En cette veillée de Noël, bien entendu, je ne vous parlerai pas de politique. Je vous demande seulement de permettre à une voix qui, depuis 6 mois, a pu vous devenir familière, d'intervenir un instant dans l'intimité de vos foyers. Ce sera pour vous apporter les vœux de quelqu'un qui, à la place où il est, a le devoir de penser constamment à ce qu'il faut faire pour le bien commun, de quelqu'un qui doit par conséquent se représenter à chaque instant vos peines et vos soucis, vos joies et vos espérances, d'un homme, je dois l'ajouter, que ses responsabilités conduisent souvent à faire des choix difficiles, parfois cruels, d'autant plus qu'ils ne sont pas toujours, tout de suite, compris par chacun. L'année qui se termine nous a apporté son lot d'efforts, mais aussi son lot de promesses. Une guerre a pris fin. Pour la première fois depuis 20 ans, le canon ne retentit plus nulle part dans le monde. Pour bien des familles, cette fête de Noël, où s'affirme d'âge en âge l'immense espérance des hommes à la concorde et à la paix, prend ce soir son sens profond. Mais Noël, c'est aussi la fête des enfants. C'est comme un anniversaire qui serait le même pour tous les enfants du monde. Depuis des semaines, ils attendent le jour merveilleux. Aussi, j'aimerais que ce Noël ne soit pas seulement un prétexte aux effusions sans lendemain, mais qu'il soit marqué par notre engagement d'agir tous ensemble pour aménager un monde où il n'y aura plus d'homme qui ait faim, qui ait froid, qui ait peur, où tous pourront vivre en paix dans un foyer auquel ils ont droit et où les petits-enfants de tous les pays réconciliés se donneront la main pour faire la ronde autour des plus beaux sapins qu'on ait jamais vus. Ce n'est pas un conte de Noël. Cela dépend de nous. Il faut que notre résolution soit à la mesure de notre espérance.
Après ces propos un peu convenus de Noël, viennent les vœux du premier de l'an. On pourrait s'attendre là aussi à un exercice quelque peu académique. Or, l'intervention de Mendès France est au contraire d'une grande qualité sur le plan de la philosophie politique qui l'anime et qui nourrit aujourd'hui encore son prestige intellectuel et moral. Après avoir rappelé qu'il a dû batailler jusqu'au bout devant le Parlement pour faire adopter les accords de Paris qui mettent un terme définitif à l'épineuse question du réarmement allemand, Pierre Mendès France explique quelle est la nature du changement qu'il a cherché à imprimer dans la vie politique de ce pays. Il ne s'agit pas tellement d'un changement dans l'orientation politique du gouvernement, mais d'une rupture dans la méthode. Pour que la République soit respectée, il faut que ceux qui la gouvernent soient respectables. Pierre Mendès France.
Une semaine s'achève, peut-être la plus pénible depuis la constitution du gouvernement, après d'autres semaines qui n'étaient point faciles cependant. à la suite d'un débat de jour et de nuit, et dont l'objet troublait profondément toutes les consciences françaises, l'Assemblée nationale a approuvé les accords de Paris. La solution adoptée est la seule qui, préservant nos alliances, permet une action efficace et rapide pour la paix. Le choix était entre cette solution et une aventure où, loin de pouvoir contribuer à la détente internationale, nous risquions, isolés, de voir notre sécurité mise en péril. Avec la semaine, s'est terminée aussi une année chargée d'événements. Chacun retrace dans son esprit les mois qui viennent de s'écouler, mais je voudrais que chacun de vous fasse cet examen non seulement pour ce qui le concerne, mais pour ce qui a trait à toutes les affaires qui nous sont communes, les affaires du pays. Je ne vous parlerai ni de l'Indochine, ni de l'Afrique du Nord, ni de l'organisation et de la sécurité de l'Europe, ni d'aucune des autres questions dont nous avons recherché et pour plusieurs obtenu des solutions. Je voudrais seulement évoquer un vrai changement survenu dans notre vie nationale. Trop longtemps, la France a piétiné, indécise, hésitante, s'essoufflant devant les obstacles difficiles et lourds qui bouchaient la route. Ce que nous avons fait en 1954 a consisté d'abord à prendre nos résolutions, puis à soulever et à écarter les obstacles, à déblayer le chemin et finalement à amorcer la marche en avant. Cette marche en avant ne fait que commencer, elle est lente encore. Mais dans plus d'un domaine, vous en voyez les premiers effets. À l'extérieur, ceux de notre action pour la paix. À l'intérieur, c'est le rythme des constructions de logements qui s'accélère. Ce sont de nouvelles classes qui s'ouvrent pour nos enfants. Plus d'hôpitaux, de dispensaires, d'œuvres de toutes sortes. C'est encore le fruit des efforts récents pour moderniser notre agriculture et lui ouvrir plus de débouchés au-dedans et au-dehors. Et c'est la lutte enfin engagée contre un grand fléau, l'alcoolisme. Le Parlement et le gouvernement ont dû beaucoup travailler pour arriver à ces premiers résultats. Mais le pays, lui aussi, a beaucoup travaillé. Notre production industrielle et agricole a très sensiblement augmenté en 1954. Il y a beaucoup moins de chômage et la masse des salaires s'est accrue. Notre balance commerciale s'est améliorée et cette amélioration nous rapproche de l'indépendance économique, objectif de 1955 et condition de l'indépendance tout court. Oh, nous ne devons pas nous déclarer satisfaits. Il reste tant à faire, il reste tant de retards à rattraper. Ne nous délivrons donc pas encore à nous-mêmes des certificats pour le passé, mais saluons la renaissance de l'espoir, car il y a un vrai changement. Quelque chose dans ce pays a tressailli, a vibré, quelque chose qui procède de la volonté et de la foi et qui est le moteur de l'action. Le scepticisme, l'indifférence sont en recul. La jeunesse, l'enthousiasme, l'espérance prennent le dessus. Partout renaît l'intérêt pour la chose publique. Les Français comprennent qu'ils n'ont pas le droit de se désintéresser de la politique. La politique qui peut être ce qu'il y a de pire, mais aussi, croyez-moi, ce qu'il y a de meilleur, selon qu'on la réduise à de vilaines querelles de personnes ou de partis ou de rancunes, ou qu'elle anime au contraire un bel effort désintéressé et de tous les instants, dans tous les domaines et toujours pour le bien commun. C'est l'heure des souhaits. En vous adressant ce que je forme pour chacun de vous, je vous demande instamment de vous associer à ce vœu, où vous mettrez, j'en suis sûr comme moi, toute votre ferveur. Ne laissons pas, quoi qu'il advienne, s'éteindre le flambeau ranimé de l'espérance française. Sachons vouloir, ne nous dérobons plus jamais devant l'obstacle. Chassons le doute, croyons, parce que c'est vrai, non seulement que le redressement de la France est possible, mais qu'il dépend des Françaises et des Français eux-mêmes, de leur participation constante et active à la vie publique, de leur exigence de progrès, de mieux-être, de paix, au-dedans et au-dehors. Que 1955 nous permette de franchir tous ensemble une étape décisive sur cette grande route, voilà ce que je souhaite de tout mon cœur en vous disant bonne année.
Peu après avoir ainsi exprimé ses vœux au pays, Pierre Mendès France prend pour la première fois depuis son arrivée à Matignon quelques jours de repos. Il les passe à Positano, superbe village de la baie de Naples. Il profite de son séjour pour rencontrer les dirigeants italiens et aussi pour rendre visite au pape Pie XII. Sans doute n'est-il pas fâché de montrer aux citoyens de France, laquelle est, comme chacun sait, la fille aînée de l'Église, que le pape reçoit avec courtoisie et même avec cordialité un chef de gouvernement juif. Il s'est rendu également à Baden-Baden afin de rencontrer le chancelier Adenauer. Le 15 janvier 1955, Pierre Mendès France, toujours fidèle à son principe de faire participer les citoyens aux enjeux de l'époque, rend compte à l'opinion publique de ses différents voyages.
Deux semaines se sont écoulées depuis notre dernier entretien. L'Assemblée nationale, après une session chargée et qui s'était achevée sur des débats graves et absorbants, a pris de brèves vacances. Elle s'est réunie au début de cette semaine et incessamment elle sera en mesure d'achever la discussion du budget, d'examiner divers projets et d'aborder la réforme électorale, cependant que le Conseil de la République se saisira des accords de Paris. Pendant l'interruption de l'activité parlementaire, le gouvernement de son côté a consacré son attention à plusieurs négociations importantes. L'une d'elles est celle que nous menons depuis quelques mois déjà avec le gouvernement tunisien afin d'élaborer les conventions qui doivent régler les relations de la France et de la Tunisie dans une union intime fondée sur l'amitié des deux peuples et sur leur communauté d'intérêts. C'est une tâche ardue, mais le résultat aura une influence capitale pour l'avenir. La bonne volonté, l'absence de passion et la ferme résolution de résister aux pressions extérieures sont les conditions indispensables du succès. J'espérais que nos pourparlers aboutiraient dans les premiers jours de cette année. Nous n'y sommes pas parvenus, mais je conserve la volonté d'aboutir à un accord. Nos amis tunisiens le savent. Ils doivent savoir aussi que l'alternative, pour nous comme pour eux, est d'aller ou bien vers un triste avenir chargé de menaces et d'angoisses nouvelles, ou bien vers les heureux lendemains que seuls peuvent préparer la compréhension mutuelle, l'union et une vision réaliste de la situation présente. Sur le plan international, nous avions pris date avec le gouvernement italien pour une rencontre le 11 janvier. Je me suis rendu en Italie un peu à l'avance et dans le calme d'un site admirable, j'ai pu consacrer quelques jours au repos, à la réflexion et aussi, bien entendu, à la mise en ordre et à l'étude de quelques dossiers. L'objectif de la conférence de Rome était double. Nous nous proposions d'aborder des questions d'importance bien diverses, mais qui étaient pendantes depuis trop longtemps entre les deux pays. Et nous voulions aussi, M. Schelba, M. Martineau et moi, confronter nos points de vue sur les plus grands problèmes afin d'harmoniser notre action tout à la fois pour l'édification de l'Europe et pour la consolidation de la paix selon l'aspiration profonde de nos peuples. Durant mon séjour à Rome, je me suis rendu au Vatican. L'audience que le souverain pontife m'a accordée, alors qu'il n'est pas encore complètement remis d'une grave maladie, est le signe d'un intérêt et d'une affection pour la France dont j'ai eu l'écho émouvant dans ses propres paroles au cours de notre entretien. Enfin, j'ai passé la journée d'hier à Baden-Baden. Le chancelier Adenauer et moi, nous avons mis au point les dispositions qui demeuraient à préciser pour l'exécution rapide de l'accord sur la Sarre. Nous avons fait des progrès substantiels pour développer les relations économiques franco-allemandes. Un accord commercial a été signé qui consacre un nouvel accroissement de nos échanges. Il assure à notre agriculture en particulier de nouveaux débouchés. L'Allemagne nous achètera deux fois plus de blé que pendant la campagne précédente, 5 millions de quintaux au lieu de 2 millions et demi. Nous lui vendrons plus de beurre et pour la première fois nous lui vendrons aussi du sucre. Nous avons d'autre part jeté les bases d'un second accord qui portera sur 3 ans au moins et qui prévoira des quantités accrues de marchandises et de produits susceptibles d'être relevés selon les circonstances en cours d'exécution. j'ai pu reconnaître à Baden-Baden, comme je l'avais fait à Rome, que cette conception des relations européennes et de leur avenir était bien celle de mes interlocuteurs. J'ajoute que sur le problème de la paix, sur celui de la recherche de la détente entre l'Est et l'Ouest, les conversations approfondies que j'ai eues ont fait ressortir des concordances de vues encourageantes pour une action positive. Car l'Europe tout entière attend l'heure d'un effort de rapprochement dont les pays de l'Est ne devraient plus tarder à montrer qu'ils y sont, comme nous, disposés en toute bonne foi et sans arrière-pensée.
Après une nouvelle causerie intervenue le 25 janvier et que nous n'avons pas estimé utile de rediffuser en raison des sujets purement conjoncturels qu'elle abordait, notamment le remaniement du gouvernement, Pierre Mendès France s'entretient le 29 janvier 1955 avec ses compatriotes. Il ne sait pas que ce sera la dernière fois. Il sait cependant, bien sûr, que le débat qui l'attend dans 4 jours à l'Assemblée nationale sur l'Algérie sera très difficile. Les premières mesures qu'avec son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, il a prises pour éviter que les attentats de la Toussaint ne dégénèrent en insurrection généralisée n'ont pas du tout satisfait le lobby colonial. Ce dernier estime que le gouvernement n'est pas assez ferme vis-à-vis des idées nationalistes. La nomination à laquelle Mendès France vient de procéder de Jacques Soustelle comme gouverneur général de l'Algérie ne suffit pas à calmer la fureur des colons. Car avant de se rallier à leur thèse, Soustelle est réputé être un intellectuel libéral, a priori peu en sympathie avec les comportements rétrogrades des notables coloniaux. Un vent mauvais pour le gouvernement semble ainsi souffler depuis l'Assemblée nationale, où les députés issus de l'Algérie sont influents. À l'autre extrême de l'hémicycle, les communistes souhaitent eux aussi en finir avec un homme hors du commun et qui commence à mordre dangereusement, à leurs yeux, sur l'électorat populaire. Au centre, enfin, les démocrates chrétiens du MRP n'ont toujours pas pardonné à Mendès l'échec de la Communauté européenne de défense. Toutes ces oppositions réunies, quoique fort disparates, risquent de mettre le gouvernement en minorité. Pierre Mendès France le sait en cette journée du 29 janvier 1955, où il s'adresse aux Français depuis sa maison de Louviers en Normandie. Néanmoins, le ton est serein. A-t-il déjà pris son parti de la défaite annoncée ? Ou bien croit-il encore à sa chance ? Difficile de trancher. Toujours est-il que nous qui savons que ce fut son dernier entretien de chef de gouvernement avec les Français, nous sommes sensibles au fait que ces derniers mots sont pour rappeler la définition du régime républicain. Un régime qui explique sa politique aux citoyens, qui ne biaise pas, qui ne dissimule pas, qui fait fond sur le courage du pays. Voici donc la dernière causerie radiophonique de Pierre Mendès France, le 29 janvier 1955.
En ce moment, l'attention de l'Assemblée et de l'opinion est concentrée sur l'Afrique du Nord. Il règne à ce sujet dans divers milieux une émotion et même une agitation dont il est fort possible, ainsi qu'on le dit, qu'elle mette en danger l'existence du gouvernement. Ce dernier n'en a pas moins le devoir de poursuivre sa tâche, selon le programme qu'il a souvent exposé à l'Assemblée nationale et que celle-ci a jusqu'ici chaque fois approuvé. Les négociations se poursuivent avec les membres du gouvernement tunisien. Elles sont laborieuses, mais elles n'en autorisent pas moins l'espoir de conclure. Il ne faut pas s'étonner qu'elles prennent beaucoup de temps, ces choses complexes et difficiles de définir le cadre et le contenu de l'autonomie interne d'un pays parvenu au degré d'évolution de la Tunisie, tout en garantissant les droits de la France et la sécurité et les intérêts légitimes des nombreux Français qui ont tant contribué par leur dévouement et leur travail au progrès économique, social et culturel de cette partie de l'Afrique du Nord. À côté, en Algérie, les Français originaires de la métropole sont plus nombreux encore qui éprouvent des inquiétudes que notre affection comprend et partage, que notre sollicitude vigilante doit s'employer à dissiper. Parmi eux, Une alarme s'est répandue, souvent très exagérée. La meilleure garantie de notre avenir africain, n'est-ce pas l'attachement à la France des populations musulmanes, ainsi que leur confiance en notre volonté de progrès dans l'ordre, que confirment tant d'émouvants témoignages. Nous venons de choisir, pour présider aux destinées de l'Algérie, un gouverneur général dont les qualités sont connues de tous et qui a la réputation justifiée d'être un homme de réflexion et d'action, un homme tout à la fois ouvert aux idées de progrès et inébranlablement déterminé à maintenir l'unité et l'indivisibilité de la République dont fait partie l'Algérie, partie intégrante de la République, tout comme la France métropolitaine. Mais quittons pour un instant ces grands sujets. Cette soirée d'hiver à la campagne m'y incite, car c'est de Normandie que je vous parle aujourd'hui. Depuis que j'ai été chargé de former le gouvernement, j'ai bien rarement eu la possibilité de passer un moment dans cette petite ville de Louviers dont je suis le maire et dans ce département de l'Eure que je représente à l'Assemblée depuis 23 ans, 23 ans qui font à peu près la moitié de ma vie. C'est dans le dur labeur des tâches quotidiennes un sentiment de réconfort que j'éprouve à me retrouver ici, dans une atmosphère paisible parmi ces amis anciens auxquels je dois tant, à qui je dois, en somme, d'être où je suis. Naturellement, ils ont bien des choses à entendre de moi et qui sans doute les intéressent, mais moi aussi, je m'instruis auprès d'eux. Il me semblait cet après-midi que je prenais le pouls d'une de nos villes de province, d'une de nos campagnes. Demain, quand je rentrerai à Paris, ce sera avec une moisson d'observations, d'encouragements, de critiques, en un mot, de matières à réflexion. Je saurai mieux ce que sont à l'heure actuelle les préoccupations, les soucis de ceux qui, toute la semaine, se penchent sur leur travail. Le bon fonctionnement d'une démocratie repose sur ces rencontres, sur ces échanges, sur cette confiance humaine qu'un représentant doit partager avec ceux dont il tient son mandat. L'élu doit être constamment au courant des pensées de ceux qui l'ont désigné. En sens inverse, il a pour devoir de compléter leur information, de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles telle mesure est nécessaire et telle autre serait mauvaise. Bref, de redresser les entraînements de l'intérêt particulier en montrant les exigences de l'intérêt général. L'importance d'un dialogue franc et direct entre l'élu et ses mandants est capitale. Il faut qu'il soit fréquent et intime, et non pas limité, espacé, distant, comme il l'est forcément, par exemple, au cours d'une fiévreuse campagne électorale. Tout ce qui rend le dialogue plus rare et plus difficile est nuisible. Tout ce qui le facilite est bon. Et c'est pourquoi le mode d'élection des députés revêt une telle importance. Le député d'un département qui compte 100 000, 200 000 et même 500 000 électeurs ne peut pas être connu d'eux, il ne peut pas les connaître autant que le représentant d'une circonscription plus réduite. Sans doute chaque mode de scrutin a ses défauts et ses avantages, mais le scrutin de liste départementale éloigne l'un de l'autre l'électeur et l'élu, il relâche les liens entre eux, tandis que le scrutin uninominal a pour effet de les resserrer, de créer les conditions d'une connaissance et d'une confiance mutuelle. Et me voici ramené à cette idée que j'ai si souvent défendue du contact nécessaire entre le peuple, le Parlement et le gouvernement. Oui, le salut exige que le régime républicain soit fondé sur des relations étroites qui seules permettent la franchise réciproque la plus complète. Celle du gouvernement qui explique sa politique jour après jour, qui ne biaise pas, qui ne dissimule pas et qui n'hésite pas à faire fond sur le bon sens, le courage et la foi du pays. Celle du Parlement, qui exprime fidèlement la volonté populaire et la fait respecter, et celle du pays tout entier, qui doit choisir son destin en pleine connaissance de cause pour l'accomplir d'une volonté affermie.
Voilà, telles sont les dernières paroles que Pierre Mendès France a adressées aux Français en sa qualité de président du Conseil en ce début d'année 1955. Une semaine plus tard exactement, son gouvernement est renversé par l'Assemblée nationale par 319 voix contre 273. Son ami Edgar Faure lui succédera à l'hôtel Matignon. France Culture a rediffusé la quasi-totalité des entretiens que Mendès France eut avec ses compatriotes à travers les ondes de la radio, à une époque où la télévision n'existait pas encore. Nous avons présenté ces documents sonores exceptionnels que l'INA vient de rééditer sur CD à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de l'ancien homme d'État. Mais c'est plus qu'un anniversaire que nous souhaitions rappeler. C'est aussi une mémoire encore très présente et très forte parce qu'elle évoque une certaine idée de l'honneur en politique.
C'était le cinquième et dernier temps de la série de Mémorables consacrée à Pierre Mendès France, diffusée la première fois le 18 octobre 2002 sur France Culture.